France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le dossier Georges Ibrahim Abdallah. Le 25 octobre dernier, un détenu du centre pénitentiaire de Lannemezan dans les Hautes-Pyrénées a célébré, si l'on peut dire, ses 40 ans d'incarcération. 40 ans derrière les barreaux. Son nom, Georges Ibrahim Abdallah, nationalité libanaise, âge 73 ans. Il a été arrêté en 1984 et condamné à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat d'un diplomate américain et d'un autre, israélien, sur le sol français. En ouvrant son dossier, c'est un vrai sac de nœuds qu'on s'attaque. Un enchevêtrement d'intoxication, d'intérêts cachés et de pression internationale qu'il faut patiemment détricoter pour comprendre la condamnation et la détention record de ce militant. Terroriste pour les uns, résistant et combattant arabe pour les autres, Georges Ibrahim Abdallah est de toute façon victime d'intérêts qui le dépassent, et ce depuis 4 décennies. Notre invité aujourd'hui, Christophe Ayad, journaliste au Monde, auteur d'une enquête sur l'affaire Georges Ibrahim Abdallah, paru le 2 octobre dernier avec Benjamin Barthes et Abel Mestre. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire Romain Weber, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation François Audouin.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Janvier 2013, centre pénitentiaire de Lannemezan, Haute-Pyrénées. Georges Ibrahim Abdallah, numéro d'écrou 2388A221, apprend que la chambre d'application des peines de Paris est favorable à sa demande de libération. C'est la 8e qu'il dépose, et cette fois, ce pourrait être la bonne. Incarcéré depuis bientôt 30 ans, il regarde sa cellule de 9 mètres carrés qu'il n'a jamais été aussi près de quitter. Il y a un grand drap rouge épinglé au mur avec la photo de Che Guevara. Des affiches et des tracts pro-palestiniens sont scotchés au-dessus de son lit. Et partout, par terre, des livres et des dossiers qui s'entassent, en piles organisées dans des sacs et des classeurs en carton. 3 décennies de coupures de journaux, de procès-verbaux et de lettres venues de France, du Liban et d'ailleurs. Au Liban, justement, ses frères s'apprêtent à partir l'accueillir à l'aéroport de Beyrouth. Ils ne l'ont pas vu depuis 30 ans. Mais dans sa cellule, Georges Ibrahim Abdallah sait que la porte n'est pas encore complètement ouverte. Il ne sera libéré que si le ministère de l'Intérieur émet un arrêt d'expulsion vers le Liban, son pays. C'est arrêté normalement une formalité. Mais pour Georges Ibrahim Abdallah, c'est peut-être différent. Depuis 1986, il a pour avocat un certain Jacques Vergès, qui répond à BFM TV.
Écoutez, je ne sais pas. Si il y a un gouvernement en France, il devrait signer. Si c'est le bordel, il ne signera pas. Donc, si jamais il devait être libéré, il devrait être expulsé sur le champ. Mais il faut une décision du ministère de l'Intérieur.
Est-ce que vous avez un message à faire passer donc aujourd'hui au ministère de l'Intérieur, puisque c'est un premier feu vert et
oui,
qu'il en manque?
Alors, au ministère de l'Intérieur, je dis, c'est peut-être pénible de rendre la justice. Mais que je lui conseille de suivre ce conseil d'un poète français, Aragon. Communiste, il est vrai, qu'il disait, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit.
Janvier 2013, Washington. La secrétaire d'État du gouvernement américain, Hillary Clinton, s'apprête à prendre son téléphone. Elle appelle son homologue français, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Son cabinet a préparé des notes et les a déposées sur son bureau. Ce document est révélé par Wikileaks en février 2018.
Cher Laurent, je voulais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien pendant mon mandat. Georges Ibrahim Abdallah a été condamné à la prison à vie en 1987 pour sa participation dans les meurtres de l'attaché militaire américain Charles Ray et du diplomate israélien Yaakov Parsimantov à Paris, ainsi que pour la tentative de meurtre du consul général américain à Strasbourg, Robert Holm. Bien que le gouvernement français n'ait pas l'autorité légale pour rejeter la décision de la Cour d'appel, nous espérons que les autorités françaises trouveront un moyen pour contester la légalité de cette décision.
Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, ne signe pas l'arrêté d'expulsion. La libération est donc impossible. Abdallah reste dans sa cellule, ses frères poireautent dans leur village, et la Cour de cassation annule la décision de libération 3 mois plus tard. Pour comprendre les pressions américaines et l'embarras du gouvernement français, il faut remonter le fil de cette affaire depuis son commencement. C'était en 1984. août 84, Italie, gare de Trieste. Un homme est interpellé par les douaniers. Il s'appelle Abdullah El Mansouri et il transporte dans sa valise 7,5 kg d'explosifs. La police italienne récolte plusieurs adresses entre l'Italie et la France par lesquelles cet homme transite. L'une d'elles est située à Lyon, plus précisément au 119 rue de Sèze, dans le 6e arrondissement. Les Italiens transmettent les informations aux Français et la direction de la Sûreté du territoire met en place la surveillance de cette adresse. Il se trouve, le renseignement vient de l'agence immobilière qui s'occupe de cet appartement. Il se trouve que le locataire est sur le point de partir. Il doit rendre les clés et récupérer sa caution. Deux agents de la DST guettent donc au milieu de ce rendez-vous et prennent en filature l'homme qui se présente. Un individu arabe d'une trentaine d'années, taille moyenne, barbe fournie. Mais l'homme en question remarque qu'il est suivi. Il imagine, on le saura plus tard, que ces individus sont des agents du Mossad. Alors il entre dans un commissariat pour se plaindre. Mauvaise pioche. Il présente un faux passeport algérien qui attire l'attention. Dans sa chambre d'hôtel, un autre faux passeport, maltais cette fois, est retrouvé, caché dans la doublure de son manteau. Il est arrêté et placé en détention. Nous sommes le 24 octobre 1984. Deux semaines plus tard, la police l'identifie sous son vrai nom. George Ibrahim Abdallah, né le 2 avril 1951 à Kobayat, dans le nord du Liban. Il est le chef d'un groupement révolutionnaire qui a revendiqué des attentats dans les années précédentes. Antenne 2 l'évoque le 20 décembre 1984.
L'hebdomadaire L'Express révèle dans son édition de cette semaine qu'un terroriste très important a été arrêté au mois d'octobre en France par la DST. Hervé Brusigny.
Christian Chapman, diplomate américain, la première victime en France des activités d'Abdallah Ibrahim, connu aussi sous le nom d'Abdelkader Saadi, le chef des fractions armées révolutionnaires libanaises. Le 12 novembre 81, M. Chapman a pourtant eu de la chance. Juste le temps de se précipiter derrière cette voiture criblée de balles, il a pu en sortir sain et sauf. Le 18 janvier 82, le lieutenant-colonel Charles Ray n'a pas eu la même chance. Une balle à bout portant dans la nuque, l'assassinat est signé FARL, fraction armée révolutionnaire libanaise. Yaakov Barsimentov, secrétaire à l'ambassade d'Israël, est exécuté le 3 avril 82 chez lui à Boulogne. Aujourd'hui, les responsables de tous ces attentats, le responsable de tous ces attentats, Abdelkader Saadi, est donc sous les verrous à Lyon. Le temps certainement pour les enquêteurs de trouver de quoi mettre définitivement hors circuit cet homme de l'ombre.
Les fractions armées révolutionnaires libanaises, les FARL, ont donc revendiqué dans les années précédentes des assassinats et des tentatives d'assassinat. Ils ont tous eu lieu en France et ont visé des diplomates américains et israéliens, probablement des membres de la CIA et du Mossad. Les FARL ont donc tué deux fois. D'abord Charles Ray, attaché militaire de l'ambassade américaine à Paris. Puis Yaakov Barsimentov, deuxième secrétaire de l'ambassade israélienne, abattu devant son domicile également. 5 mois plus tard, ils font exploser une voiture israélienne, toujours devant le lycée Carnot. Enfin, quelques mois avant l'arrestation d'Abdallah, le consul américain à Strasbourg échappe de peu à la mort dans une tentative encore signée par les FARL. Une question se pose alors. Pourquoi ces terroristes commettent-ils tous ces assassinats sur le sol français ? Eh bien, c'est une stratégie assumée. Ce groupe est apparu au Liban à la fin des années 70. Israël attaque le pays pour faire la guerre aux combattants palestiniens. Abdallah, un jeune chrétien du Nord, rejoint la lutte aux côtés des Palestiniens. Il est pétri d'idéologies révolutionnaires marxistes-léninistes. Et il fonde les FARL, qui se battent contre Israël et son allié américain, contre l'impérialisme selon leur terminologie, et qui veulent mener ce combat à l'étranger pour frapper l'opinion. C'est au bout de ce cheminement qu'Abdallah et ses partisans mènent leurs actions en France et en Italie en 1982. Au même moment, Israël envoie 90 000 soldats au Liban et provoque la mort de 20 000 Libanais et Palestiniens. Toujours à la même époque, plusieurs centaines de Palestiniens réfugiés à Sabra et Shatila, au Liban, sont massacrés par des milices libanaises. Nous voici donc de retour à Lyon, à la fin de l'année 84. Abdallah est en prison. La police sait qu'il est un membre important des FARL, mais elle ne dispose d'aucun élément qui le lie personnellement aux assassinats. Mais quelques mois plus tard, le 23 mars 1985, un Français est enlevé au Liban.
Quatre Français enlevés au Liban en deux jours. Hier, les fractions armées révolutionnaires libanaises ont revendiqué le rapt de Gilles Pérol, directeur du centre culturel de Tripoli, dans le nord du pays. L'enlèvement s'est vraisemblablement produit samedi matin, devant le centre culturel. Les menaces des ravisseurs sont très précises. Gilles Pérol sera abattu si le gouvernement français et le gouvernement italien ne libèrent pas trois Libanais emprisonnés en France et en Italie.
Depuis le Liban, les FARL exigent la libération d'Abdallah. Si la France n'obéit pas, ils exécuteront l'otage. Yves Bonnet est le directeur de la DST. Les informations dont il dispose ne font d'Abdallah qu'un activiste de petite envergure. Alors il ne lui coûte pas cher de libérer cet homme qui n'est suspecté que d'usage de faux papiers et de détention d'armes. Alors il accepte l'échange. Au Liban, l'otage est libéré et les FARL attendent l'extradition d'Abdallah. Mais elle ne vient pas. Parce qu'au même moment, la police découvre, dans un appartement parisien, l'arme qui a servi à tuer les diplomates américains et israéliens. Or, Abdallah est passé par cet appartement. Cette découverte concorde étrangement avec l'échange entre l'otage et lui. Est-ce vraiment un hasard ou bien la DST attendait-elle la libération de l'otage pour sortir l'information ? On ne sait pas. Mais Abdallah devient soudainement un criminel plus important que prévu. Yves Bonnet, le patron de la DST, comprend immédiatement, l'échange ne tient plus, Abdallah reste en France. Un premier procès a lieu deux ans après son arrestation, en juillet 86. Il ne s'agit que de faux papiers, d'association de malfaiteurs et de détention d'armes. Il est condamné à 4 ans de prison. C'est peu, au vu de ce dont on le suspecte. Alors en coulisses, les États-Unis se mettent en action pour préparer la suite. Le procès pour complicité d'assassinat. Ministère de l'Intérieur, Paris, un soir de l'été 86. On dîne. Autour de la table, il y a le ministre chargé de la Sécurité, Robert Pendron. Face à lui, un homme, 70 ans passé, grand d'une lunette ronde et une drôle de dentition. Il s'appelle William Casey. C'est le directeur de la CIA. Et il a des messages à faire passer. Il commence par rappeler à Pendreau que le 4 juillet précédent, c'est Ronald Reagan lui-même qui a parlé de l'affaire au président Mitterrand en visite aux États-Unis. Pendreau sait bien que les Américains ont envoyé un émissaire dans le bureau du juge d'instruction pour faire pression. Bon, le repas suit son cours. William Casey, devant son assiette, hausse le ton. Le journaliste Patrice de Méritens décrit la scène à Benoît Colomba pour Secret d'Info sur France Inter.
Et là, Casey s'anime véritablement. Il brandit sa fourchette face à Pendreau et lui dit « Si jamais la France ne condamne pas Abdallah à la perpétuité, je vous promets que ça va mal se passer entre nos deux pays. Il y aura une rupture diplomatique. Ce sera le scandale absolu. » Pendreau, il déglutit la chose et il lui a répondu avec un sang-froid absolu « Écoutez, on va faire plus simple. On va libérer Abdallah. Ensuite, on l'envoie au Moyen-Orient, au Liban. On vous donne son adresse. Et vous, vous savez, avec vos services spéciaux et avec vos réseaux, bah, vous le liquidez. Et puis, on n'en parle plus. La Casey se retrouve quoi ? Et on a passé à autre chose.
Pour le gouvernement français, l'affaire est simple. Abdallah est un étranger. Ses victimes sont des étrangers. Ça n'intéresse pas la France. Alors il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Une fois au Liban, comme dit Pendreau, les Américains feront ce qu'ils veulent. Ça ne regardera plus la France. Et le gouvernement cède face aux pressions américaines. Pour parfaire leur stratégie, les États-Unis travaillent aussi sur un autre volet. « Cabinet de l'avocat Georges Kegeman, grand nom parmi les pénalistes. Proche de Mitterrand, le plus proche possible. Surtout lorsqu'il s'agit de parader auprès de lui lors du fameux pèlerinage de Solutré, là où il faut être vu. Défenseur d'intellectuels d'extrême-gauche, comme Pierre Coleman ou Guy Debord, l'homme mène des combats intéressants et courageux. Le téléphone sonne, il décroche. Au bout du fil, un homme parle en français avec un fort accent d'Europe centrale. Il dit représenter le gouvernement américain et il voudrait lui proposer une affaire dans laquelle, fait rarissime, les États-Unis veulent se porter partie civile. Bref, il veut rencontrer Kegeman. Mais il est prudent, paranoïaque même. Il ne veut pas le voir à son cabinet. Non, il lui donne rendez-vous rue du Faubourg Saint-Honoré dans une voiture. Autour de Kegeman d'être méfiant, mais il accepte. Une voiture est stationnée sur le bas-côté, quelque part, rue du Faubourg Saint-Honoré. On lui fait signe, il ouvre la portière, s'installe sur la banquette, à côté de l'homme. Immédiatement, il le reconnaît à son accent, puisqu'il l'a eu au téléphone. Et lui propose l'affaire Abdallah. Une affaire qui tourne mal, dit-il. La France aimerait déclarer un non-lieu, mais les États-Unis veulent, eux, le faire lourdement condamner. Le rendez-vous se termine, Kegeman sort de la voiture. Il reçoit une lettre de l'ambassade qui le rassure. Cet homme étrange est effectivement un représentant des États-Unis. Et voilà Kegeman qui, avec ses collaborateurs, découvre le dossier et comprend l'inquiétude des Américains. Les preuves contre Abdallah sont maigres. On peut montrer qu'il se trouve dans les parages quand les FARC mènent une opération, mais rien ne le relie de façon certaine aux assassinats. Une équipe des renseignements américains est alors mise à la disposition de Kegeman pour mener une enquête parallèle. Mais c'est autre chose qui va peser au moment du procès contre Georges Ibrahim Abdallah. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le dossier Georges Ibrahim Abdallah.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Les terroristes ont donc encore une fois frappé cet après-midi à Paris. Une bombe a explosé devant le magasin Tati, rue de Rennes, dans le quartier Montparnasse. Je vous le disais, le bilan est très lourd. 5 morts, 11 blessés très graves et plus de 50 blessés légers. Sur place, Jacques Expert. Alors Jacques, d'abord, rappelez-nous ce qui s'est passé, dans quelles circonstances cette bombe a explosé.
Bien, l'attentat a eu lieu un quart d'heure environ avant 18h. D'après les premiers éléments de l'enquête, une voiture, une BMW avec deux hommes à bord, a jeté deux grenades en direction de Tati. Écoutez ce témoignage recueilli juste après l'attentat par Serge Martin.
Il y avait des gens qui criaient, il y a la police, j'ai vu des policiers qui sont arrivés en courant, il y avait des gens par terre plein de sang. C'était vraiment...
Vous avez vu beaucoup de blessés également ?
Oui, il y avait énormément de blessés.
17 septembre 1986, l'attentat de la rue de Rennes fait 7 morts et 55 blessés. C'est le dernier et le plus meurtrier d'une longue vague. Décembre 85, Galerie Lafayette. Février 86, Hôtel Claridge. Librairie Gilbert Jeune et Fnac du Forum des Halles. 17 mars, attentat contre un TGV. 20 mars, nouvel attentat sur les Champs-Élysées. 8 septembre, attaque du bureau de poste de l'Hôtel de Ville. 12 septembre, attentat au centre commercial de la Défense. 14 septembre, explosion pub Renault sur les Champs. 17 septembre, attentat rue de Rennes, les années de plomb à la française. Toutes ces attaques sont revendiquées par le CSPPA, Comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Ce groupe demande la libération, entre autres, de Georges Ibrahim Abdallah. Il n'en faut pas plus pour que la police cherche de ce côté-là et que le gouvernement rejette la responsabilité de ces attaques sur Abdallah. Les photos de deux de ses frères, Maurice et Robert, sont placardées dans des commissariats et des bureaux de poste, avec une récompense d'1 million de francs promise à qui les retrouvera. Sauf qu'Abdallah et ses frères ne sont pour rien dans ces attentats. Ses frères n'ont même pas mis le pied en France depuis des années. Les attentats sont commis en réalité par le Hezbollah, bras armé de l'Iran au Liban. Alors pourquoi accuse-t-on Abdallah et ses frères ? Le ministre Robert Pandreau le révèle plus tard dans un livre sorti en 1996.
Nous avions lancé la piste des Farles sur la base des premiers témoignages, même si nous savions que pour des Français, qui pensaient avoir reconnu les frères Abdallah sur les lieux des attentats, tous les barbus proche-orientaux se ressemblent. Nos contacts, notamment algériens, nous assurent que le clan Abdallah n'est pour rien dans ces attentats. Mais ne nous en apporte pas la preuve. Je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal, même si ça ne faisait pas de bien. En réalité, nous n'avions alors aucune piste.
Et tous les médias, sans exception, tombent dans l'intoxication. Bon, il n'y a qu'à lire les manchettes des journaux. Le Matin de Paris, titre, par exemple. Abdallah, l'homme par qui les attentats arrivent. Le Monde, le gouvernement aurait obtenu une trêve avec le clan Abdallah. Même chose du côté du Figaro, de France Inter, de TF1, d'Antenne 2. Abdallah devient aux yeux de l'opinion l'incarnation du terrorisme juste avant l'ouverture de son procès. Le 23 février 87, 3500 policiers et gendarmes sont mobilisés à Paris pour éviter d'éventuels attentats. Le RAID et le GIGN accompagnent la fourgonnette qui dépose Abdallah au palais de justice. Son avocat, Jacques Vergès, est au centre de l'attention. Militant et défenseur du FLN, de la famille du juge Renault ou du terroriste Carlos, il est connu pour s'attaquer à l'État et à l'impérialisme occidental. Dans ce procès, il aurait pu demander à ce que les États-Unis ne puissent pas se porter partie civile. Mais en réalité, il est satisfait. Et comme souvent, il transforme le tribunal en tribune.
Le cas d'Abdallah, c'est une affaire pourrie. C'est une affaire pourrie depuis que le gouvernement précédent, M. Fabius, avait pris l'engagement de libérer Abdallah contre la libération de M. Pérol. Et que M. Pérol a été libéré et que la parole donnée de la France n'a pas été tenue. Vous savez très bien que cette affaire devait se terminer par un non-lieu. Tout le monde le disait, c'était le secret de Polichinelle dans la presse et dans les milieux judiciaires. Et que si cette affaire a rebondi, c'est parce que le gouvernement américain s'est constitué partie civile. Et donc, c'est l'affrontement des États-Unis et des combattants arabes qui aura lieu dans le théâtre de la cour d'assises.
Le procès commence. Abdallah est dans le box des accusés. Il se lève et s'adresse au juré en ces termes. Je suis ici pour vous demander de bien vouloir laver vos mains maculées de notre sang et du sang de nos gosses avant de prétendre nous juger. Je me retire de cette cour, vous laissant le plaisir d'écouter le représentant du bourreau vomir sa haine contre les déshérités de la terre. Le ton est donné. Abdallah et son avocat ne plaident pas le dossier, mais la guerre des combattants arabes contre les États-Unis et Israël. Alors, George Kejman s'avance. Lui aussi prend sa part dans ce combat politique. Avant le procès, il est allé, dit-il, sur les plages du débarquement. Il voulait se recueillir là où tant d'Américains sont morts et se souvenir de ce que provoque l'anti-américanisme primaire. Kejman ne fait donc pas lui non plus dans la finesse, mais l'intervention la plus étonnante de ce premier jour est celle de l'avocat général. Il s'appelle Bachelin. Il se lève, le silence se fait. « Je voudrais prendre des réquisitions implacables, dit-il. Mais je suis un peu dans la situation de l'officier d'état-major qui doit s'adapter au terrain. Malaise. Un trouble qui se lit particulièrement sur les visages américains. Ce que l'assistance ne sait pas, c'est que la veille, le procureur général de Paris a convoqué Bachelin dans son bureau. Il lui a rappelé les attentats de Paris, il lui a parlé des otages au Liban et il lui a demandé de requérir la plus petite peine possible pour Abdallah. C'est à n'y rien comprendre. L'État met sur le dos d'Abdallah les attentats de 86 et voilà qu'en son procès, il demande l'indulgence. Je crois, dans l'intérêt de tous, dit l'avocat général, pouvoir vous demander, vous conjurer, vous supplier de ne pas prononcer à l'encontre de l'accusé, et je le dis de la mort dans l'âme, une peine de réclusion criminelle qui ne soit supérieure à 10 ans. Murmure dans le prétoire. Enfin, l'avocat général se tourne vers le juge et lui glisse « Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour l'intérêt de la France ?» Le procès s'étale sur plusieurs jours. Kejman montre des documents que l'équipe des renseignements américains est parvenue à trouver et qui relie un peu plus Abdallah aux assassinats. Vergès, lui, lit du Jean Genet et parle de Sabra et Shatila, faisant passer le dossier au second plan. Au bout du cinquième jour, les jurés se retirent pour délibérer.
70 minutes de délibération. Et le président Maurice Collomb lance « Oui, George Ibrahim Abdallah est coupable. Non, il n'a aucune circonstance atténuante. En conséquence, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. »
Dans les couloirs du palais de justice, c'est la précipitation. Un jeune diplomate américain court prévenir son ambassade. Quant à l'avocat d'Abdallah, il révèle comment son client a accueilli la condamnation.
Il a éclaté de rire. Il m'avait dit dès le départ qu'il m'interdisait de remporter un prétendu succès judiciaire, c'est-à-dire une solution bâtarde. La France était aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle a choisi celui de l'hostilité aux pays arabes. Eh bien, au moins, le choix est clair.
Abdallah condamné à la prison à vie, malgré un dossier extrêmement fragile, Vergès adopte un ton goguenard. En réalité, son visage se ferme un instant à l'annonce du verdict. Au contraire, chez les parties civiles américaines, on se tombe dans les bras. L'ambassadeur américain fait une déclaration. Le gouvernement est heureux. Le gouvernement américain. En n'oubliant pas de nier l'évidence, il n'y a eu aucune ingérence de notre part dans le système judiciaire français hostile devant les caméras. Abdallah part en prison. Nous sommes en 1987. Il n'est pas libérable avant 1999. Centre pénitentiaire de Lannemezan, numéro d'écrou 2388A221. Des années passées à passer le temps, à tuer le temps. Abdallah lit beaucoup. Il écrit aussi. Il répond aux nombreuses lettres qu'il reçoit. Il est organisé. Il classe des dossiers selon les thèmes. Peut-être en a-t-il un consacré à l'affaire Jean-Claude Mazurier. C'était son premier avocat entre 1984 et 1986. Après son procès, en 87, Mazurier a publié un livre, « L'agent noir ». En même temps qu'il défendait Abdallah, cet avocat travaillait pour les services secrets français. Oui, ce qu'Abdallah lui disait, il le rapportait à la DST. Ce qui est évidemment contraire à toutes les règles de la profession d'avocat. Et c'est évidemment une très bonne raison de porter l'affaire en cassation pour annuler la condamnation d'Abdallah. Pourquoi Vergès ne l'a-t-il pas fait ? Du fond de sa cellule, Abdallah a peut-être des réponses, peut-être aussi et surtout des interrogations. En tout cas, à Lannemezan, c'est un détenu respecté. Lannemezan, c'est une prison pour les très longues peines. On y croise des membres de l'ETA, des terroristes islamistes, mais aussi des membres d'Action Directe. Jean-Marc Rouillan, l'un des fondateurs du groupe terroriste français, est son voisin de cellule dans les années 90. Il témoigne au micro de RFI en 2022.
Je pense à la cellule de Georges. Il n'a pas changé de cellule. Elle a été un peu repeinte. Il n'a plus le grand tissu que lui avaient monté les prisonniers. Ils avaient trouvé un immense drapeau avec la tête de Che Guevara, dont ils étaient venus lui apporter et pour couvrir la décrépitude des murs de sa cellule. Les journaux entassés partout qu'il posait le matin sur le lit et le soir reposait par terre. Des piles de journaux du monde entier, parce qu'il lit plusieurs langues. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se lève très tôt, qui écoute la BBC en arabe. La prison pèse, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est tellement solide dans ses convictions que, voilà, il reste debout après 38 ans, quoi.
Jean-Marc Rouillan n'est plus à Lannemezan en 2003 quand Abdallah dépose sa première demande de libération. Demande acceptée par la juridiction de Pau, mais rejetée par la Cour d'appel de Paris, saisie à la demande du ministre de la Justice, Dominique Perven. Et cette mécanique se répète. Depuis 2003, 10 demandes de libération conditionnelle ont été rejetées. Après un nouveau refus, en 2009, Jacques Vergès répond à France Inter.
Mon client dit, j'ai usé de violence, j'étais un résistant, parce que mon pays était occupé. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Je vais reprendre mon métier d'enseignant. Et pour s'opposer à ça, la majorité de la commission dit, oui, mais en cas de... Mais enfin, il faut apprécier la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Écoutez, je pense que les magistrats sont des magistrats honnêtes, que les magistrats ne sont pas des pétainistes, que les magistrats respectent l'indépendance des autres pays. Est-ce que le Liban est encore un mandat français? Si c'était un mandat français du temps de Pétain, ça ne l'est plus. Le Liban accepte de le recevoir, estime que ça ne comporte aucun danger pour eux. Et maintenant, des magistrats en France diraient que ce n'est pas possible. Je dis encore une fois, cette conclusion de cette commission, c'est du pétainisme. Nisme.
Le 25 octobre 2013, il y a de l'agitation à Lannemezan. Ils sont plusieurs dizaines avec des mégaphones. On voit des drapeaux palestiniens, beaucoup de kéfiers et un grand message en tête de cortège, libérez Abdallah. 30 participants sont alignés devant les grilles de la prison, portant chacun une grande affiche avec le visage d'Abdallah imprimé en rouge. Une affiche par année, 84, 85, 86, et ainsi de suite. Et sur la dernière affiche, basta. Chaque année, le 25 octobre, ce comité se réunit pour réclamer la libération d'Abdallah. Les participants à cette manifestation en 2013 ne savent pas que quelques mois plus tôt, c'est Hillary Clinton elle-même qui a pris son téléphone pour demander à Laurent Fabius d'annuler la libération d'Abdallah. Ils ne savent pas non plus que la DST fournit des notes justifiant les renvois de ses demandes. Benoît Colombat, pour Secret d'Info, révèle qu'en 2005, les services français écrivent une note disant « Converti à l'islam, son discours mêle aujourd'hui anti-impérialisme, anti-sionisme, mais au nom de l'islam et non plus au nom de la lutte contre les pays capitalistes oppresseurs. Son avocat et ses soutiens dénoncent un mensonge. Abdallah est chrétien, il ne s'est jamais converti. » Ce que l'on découvre également, en regardant les documents révélés par Wikileaks, c'est que les administrations américaines, de George Bush jusqu'à Joe Biden, suivent le dossier avec assiduité et maintiennent la pression. Le 27 avril 2007, une note de l'ambassade américaine est envoyée à Washington. L'ambassadeur, dit cette note, a reçu une lettre du directeur de cabinet du ministre français de la Justice, l'informant que le procureur général avait donné l'instruction de s'opposer à la demande de libération conditionnelle d'Abdallah. Le soutien du gouvernement français est vital pour notre affaire, notamment parce qu'il peut faire appel en cas de libération conditionnelle d'Abdallah. Mais en France, même ceux qui l'ont condamné en 87 lui apportent leur soutien. Yves Bonnet de la DST, qui l'a arrêté, dit avoir, je cite, « un problème de conscience avec cette affaire ». Presque 30 ans après les faits, je trouve anormal et scandaleux, dit-il, de maintenir Abdallah en prison. Alain Marceau, qui était le juge antiterroriste de l'affaire, dit de son côté « je ne comprends pas les raisons pour lesquelles Abdallah peut encore être détenu ». Selon moi, il ne présente plus de danger pour l'ordre public français. Même Georges Kejman écrit dans ses mémoires, paru en 2021, « J'estime que Georges Ibrahim Abdallah pourrait être libéré. J'ai une forme de respect pour lui que je n'avais pas à l'époque. » À l'heure où nous parlons, nous sommes dans l'attente d'une nouvelle décision. L'avocat de Georges Ibrahim Abdallah a déposé une 11e demande de libération conditionnelle en juin 2023. Le 15 novembre dernier, le tribunal d'application des peines a accepté cette demande. Mais le parquet national antiterroriste a fait appel. Nous saurons le 20 février si Georges Ibrahim Abdallah peut ou non être libéré et rentrer au Liban 41 ans après son arrestation.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le cas Georges Ibrahim Abdallah. Notre invité, Christophe Ayad. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, auteur d'une enquête sur l'affaire Abdallah, parue le 2 octobre dernier, écrite avec Benjamin Barthes et Abel Mestre. Alors, on l'a dit, on attend une décision pour une libération conditionnelle éventuelle le 20 février. J'ai cru comprendre que les avocats d'Abdallah n'étaient pas optimistes.
Maître Chalancé est sorti assez déprimé, effectivement, un peu abattu de l'audience de décembre en appel, parce que l'avocat des États-Unis a été lourdement insistant. Et ensuite, le parquet général ne s'est pas montré spécialement encourageant non plus dans son attitude. Après, ça dépend des juges. Ils peuvent très bien quand même confirmer la décision de leurs collègues de première instance, qui était assez documentée puisqu'elle fait 30 pages.
Mais enfin, pourquoi les États-Unis s'acharnent-ils autant sur un cas qui a maintenant 40 ans d'âge, hein ?
Je pense que c'est une question de principe. Tout comme on ne paye pas de rançon aux terroristes, il y a la notion de perpétuité aux États-Unis est réelle. C'est-à-dire, il faut que Abdallah paye jusqu'au bout l'assassinat d'un diplomate américain. Et perpétuité, c'est perpétuité. Tout comme vous avez aux États-Unis des condamnations
à 150 ans de prison.
Voilà, 800 ans même, ouais. Parfois, ou 30 fois la perpétuité. Donc ça existe. Bon, il y a qu'à voir la question de Guantanamo, dont on n'arrive pas à sortir, et où des gens sont dans une forme de perpétuité réelle aussi. Je pense que vraiment, il y a une question de principe qui est Abdallah a tué l'un des nôtres, il doit payer.
Quelles sont ses conditions de détention, d'ailleurs, depuis 40 ans ? Elles ont peut-être évolué, d'ailleurs.
Elles ont évolué, elles sont correctes. Je veux dire, après, la détention reste une privation de liberté. Son principal inconvénient. Maintenant, je ne dirais pas que Abdallah est dans des conditions luxueuses, mais il a la place d'étudier, de réfléchir, il peut se déplacer dans la prison, il a des promenades, il a des rencontres avec ses co-détenus, des discussions politiques, comme on l'a vu très bien dans votre documentaire, avec ça a été Jean-Marc Rouillant, mais ça a été aussi notamment un terroriste algérien du GIA. C'est ça qui a pu faire dire. Enfin, c'est là-dessus que la DST s'est appuyée à une époque pour prétendre qu'Abdallah s'était converti à l'islam et converti surtout aux idées djihadistes.
Oui, c'est ça.
Bon, c'est pas le cas. Maintenant, ils échangent beaucoup.
Les Farc s'en sont pris à des diplomates américains, mais aussi à des représentants d'Israël. On vient de parler des pressions américaines. Existe-t-il également des pressions israéliennes ?
Alors, bizarrement, en tout cas, Yves Bonnet me dit « Moi, j'ai rencontré plusieurs fois les gens du Mossad, ils m'ont jamais parlé de lui ». Franchement, pour eux, c'est du passé, c'est plus un sujet. Alors, quand j'ai sollicité l'ambassade d'Israël à l'occasion de cette enquête, bizarrement, j'ai sollicité les États-Unis et Israël. Les Américains ne m'ont rien répondu. Les Israéliens ont fini par me répondre une phrase comme quoi Georges Ibrahim Abdallah devait purger jusqu'à la fin de ses jours pour le crime qu'il avait commis. Mais ils n'ont pas désigné d'avocat, ils sont pas présents à l'audience, ils produisent pas des nouveaux documents. Donc je pense que la pression vient plutôt des États-Unis que d'Israël, même si Israël va pas se réjouir de sa libération.
Mais
ils ont d'autres chats à fouetter et des histoires beaucoup plus récentes à régler.
Alors, il y a une grosse adversité autour d'Abdallah. Il y a aussi des soutiens. Est-ce qu'il est une conscience pour les milieux d'extrême-gauche, les milieux pro-palestiniens, les communistes?
Ah oui, il est une conscience, il est surtout un symbole. Il est le symbole d'une lutte qui n'a jamais cessé, d'un militantisme qui n'a pas cessé et qui est pas islamiste. C'est-à-dire, il est le symbole de l'époque où la lutte pour la Palestine, la lutte des États arabes, enfin, ou en tout cas des mouvements de libération dans les pays arabes, était de gauche, était marxiste. Ouais. Donc, d'une certaine manière, il représente un peu une sorte d'oripeau du passé auquel des groupes qui vont de Révolution Permanente à LFI, en passant par le NPA, le Parti Communiste, etc., se raccrochent parce que ils montrent que la lutte a été de gauche et pas forcément...
Et surtout politique, moins religieuse que celle de Daesh aujourd'hui,
par exemple. Moins identitaire, moins religieuse et plus politisée. Ouais. On pouvait être pro-palestinien et chrétien. On pouvait être de gauche et grec-orthodoxe, ouais, comme c'est son cas. Donc, il représente une forme de passé un petit peu fantasmé aussi.
France Inter. Affaire sensible.
Christophe Ayan, je voudrais revenir sur ce que dit maintenant Yves Bonnet, patron de la DST à l'époque. Il dit avoir, je le cite, un problème de conscience avec cette affaire, presque 30 ans après les faits, je trouve anormal et scandaleux, dit-il, de maintenir Abdallah en prison. Comment analyser cette déclaration ?
Yves Bonnet, je lui ai parlé, il a une position assez claire. Pour lui, on a donné la parole, la France a donné sa parole, et elle l'a pas tenue. Ouais. C'est-à-dire, il devait y avoir un échange entre Gilles Pérol et Georges Ibrahim Abdallah, et puis Gilles Pérol a été libéré, et pas Georges Ibrahim Abdallah. Et ça, Bonnet le vit assez mal, parce que c'est lui qui est allé négocier cet échange, il est allé à Alger. À l'époque, c'était les services algériens qui avaient le contact avec les FARL. Et il avait donné lui-même sa parole à son homologue algérien, qui a ensuite donné sa parole aux FARL. Et c'est sur la base de ces paroles données que la libération de Gilles Pérol a pu avoir lieu, mais pas celle d'Abdallah. Donc, oui, pour lui, on a trahi la parole de la France, d'autant que les politiques qui lui avaient dit oui, c'est-à-dire Matignon, à l'époque, le cabinet de Fabius, lui avaient dit « c'est OK », se sont ensuite défaussés, notamment Jean Glavany qui a dit « Ah non, on n'avait jamais donné la parole, François Mitterrand est pour rien là-dedans, et quant à Fabius, je ne sais pas ».
Alors, dans cette histoire, il y a aussi ce qu'on peut appeler une affaire dans l'affaire. On en a parlé dans le récit. Le premier avocat d'Abdallah, un certain Jean-Paul Mazurier, le défendait tout en rapportant ce qu'Abdallah lui disait au service de renseignement français. Bien. Alors, il s'est confié sur Antenne 2 juste après le procès en 1987.
J'ai quand même trahi, non pas Abdallah, mais j'ai violé tous les devoirs de ma profession, une profession qui reste, quoi qu'on en dise et quoi que j'ai fait, l'un des fondements de notre démocratie, l'un des remparts de la liberté. Quand je fais le bilan de mon action, je ne sais pas si j'ai réalisé ce que je voulais faire. On pourrait reprocher aujourd'hui au service secret français de s'être adressé à quelqu'un, d'avoir parachuté quelqu'un, plus exactement, dans un milieu qui n'était pas le sien, paramilitaire, militaire, quelqu'un qui n'était pas fait pour ça.
Vous quittez la maison pour laquelle vous avez travaillé ?
Je la quitte, mais j'aimerais surtout qu'elle me quitte.
Ah, des vraies paroles de contrition, hein. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
C'est terrible, parce que il dit « j'ai pas trahi Abdallah ». Si, il l'a trahi, et il a trahi sa robe d'avocat.
Ça, il le dit, en revanche.
Voilà. Bon, j'avoue, hein. Mais en fait, il a l'air complètement détruit par cette histoire.
Mais pourquoi, on peut se demander la raison, pourquoi a-t-il donné ces renseignements ?
Ça, c'est...
Lui seul le sait, la DST, mais bon.
Voilà, c'est des histoires de service. Mais c'était pas nécessaire, surtout. Non. D'autant qu'Abdallah, je veux dire, il a jamais eu de cachotterie par rapport au juge, etc. Il a toujours dit les choses telles qu'il dit « je n'ai pas tué ces hommes, mais si j'avais pu, je l'aurais fait ». Voilà. Donc, c'est honnête. Il assume politiquement, tout en disant, ce n'est pas moi qui étais là ce jour-là. Mmh. Et d'ailleurs, le fils de Barsimentov, qui était là le jour où son père a été tué, dit qu'il avait reconnu une femme.
Ah.
Et une femme, membre des Farles, qui est morte plus tard de maladie au Liban. Donc, en fait, Abdallah ne serait pas responsable de la mort de Barsimentov, mais peut-être que celle de Charles Rey, et encore, en fait, on ne sait pas si c'est vraiment lui qui a appuyé sur la gâchette.
Mais ça a eu des conséquences néfastes, ça a porté préjudice à Abdallah, ses confidences, ça a rapporté à la DST, ou ça n'a pas changé grand-chose?
Non, je pense pas que ça ait changé grand chose. Ce qui a changé beaucoup, c'est que c'est l'ambiance dans laquelle s'est tenu le procès. C'est le fait qu'on ait incriminé, ce qui est vraiment dégoûtant, c'est d'avoir incriminé Abdallah sans preuve, comme le dit Poindreau, ça pouvait pas
terrible,
faire de mal.
Les révélations de Poindreau,
voilà,
c'est
d'avoir incriminé Abdallah sans preuve dans la série des attentats qui étaient commis par Fouad Ali Saleh pour le compte du Hezbollah, pour le compte de l'Iran, dans le cadre du bras de fer entre la France et l'Iran sur l'Eurodif, le nucléaire et sur les otages.
Alors, Abdallah a été défendu par une star du barreau, hein, Jacques Vergès. Cette histoire de propos rapportés par l'avocat à la DST, c'était un motif recevable pour faire casser le jugement. Vergès n'a pas essayé de le faire.
Oui, mais parce que Vergès, je suis pas sûr que ce qui l'intéressait, c'était faire libérer Abdallah. Je pense que ce qui intéressait Vergès, c'était c'est comme le procès Barbie, c'était de disposer d'une tribune pour s'en prendre à l'Occident hypocrite, ses doubles standards.
La défense de rupture.
Voilà. Mais la défense de rupture, elle a jamais fait de bien à ses clients. il se trouve que eux-mêmes partageaient ses idées, donc ils étaient très fiers de voir quelqu'un qui défendait leurs idées. Mais ça je sais pas, Vergès, j'ai pas toujours l'impression qu'il voulait remporter ses procès, il voulait les mener, c'est pas la même chose.
Oui, mais il voulait faire d'Abdallah plutôt un martyr que de le faire innocenter, finalement.
Il a voulu faire libérer plus tard, mais c'était un peu trop tard, quoi.
Bien, ce sera le mot de la fin, Christophe Ayad. Merci infiniment, au revoir.
Au revoir.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Georges Ibrahim Abdallah, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Mathias Alléon.